Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey Morel.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci à vous.
Racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors comment parcours assez classique, de Master 2. Au début, je voulais intégrer l'administration et après un stage, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Après, j'ai fait un stage...
Pourquoi c'était pas fait pour vous, l'administration?
Trop lent, trop lourdeur, pas assez dynamique. Je sentais qu'il me fallait quelque chose en fait de plus vivant, même si pourtant aujourd'hui, je conseille énormément de collectivités. Je me voyais pas travailler en collectivité. Du coup, j'ai fait un stage en entreprise qui m'avait beaucoup plu. Et c'est dans ce stage qu'on m'a dit, même si tu travailles en entreprise, passe le concours d'avocat, c'est pas grave si tu n'exerces pas, tu seras quand même mieux valorisé, etc. Donc, j'ai fait l'école, comme tout le monde. J'ai fait des stages qui m'ont pas tous plu, mais ma première collaboration, en revanche, m'a plu, donc j'ai continué sans me poser de questions.
Qu'est-ce qui vous a pas trop plu dans vos stages?
Alors, j'ai fait un long stage en entreprise. À l'époque, ça s'appelait EADS, beaucoup qui m'a bien plu. Et après, je suis allée dans un gros cabinet anglo-saxon, je ne dirai pas le nom, où il y avait une mauvaise ambiance, tant entre les collaborateurs qu'entre les stagiaires. Voilà, un esprit de compétition, travail de stagiaire, pas forcément valorisant. Donc, voilà, on était plus des petites mains, mais on n'était pas intégrés dans les dossiers. Et donc, du coup, je sentais que ce type de structure, déjà, n'était pas faite pour moi. J'avais pas l'impression d'apprendre en plus vraiment le métier. Pour autant, je me voyais pas ne pas donner la chance à la profession. Et du coup, j'ai pas cherché tout de suite à aller en entreprise. Hein. J'ai cherché une vraie collaboration, mais dans un cabinet de plus petite taille. Donc, okay. La tournerie.
Ok. Et comment ça s'est passé chez la tournerie?
Bah, ça s'est très bien passé. J'y suis restée 5 ans. Donc, c'était une bonne expérience humaine. Pour le coup, où j'ai fait des belles rencontres, où j'ai tout de suite aimé les dossiers qu'on m'a donnés. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui je traite tel domaine.
C'était quoi les dossiers sur lesquels vous travailliez à l'époque?
Alors, on était plus ou moins affiniés à un associé. L'associé pour qui je travaillais, donc, qui était Terence Cabot, pratiquait beaucoup le secteur des télécommunications, pour les personnes publiques et pour un grand opérateur. Donc, ça a varié. C'était une droit public classique, droit à la régulation, droit à la concurrence. Et on travaillait beaucoup avec des ingénieurs et des cabinets financiers. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est d'allier le droit vraiment à un secteur d'activité avec un écosystème à part entière, des gens très variés. Et le fait de travailler principalement pour un associé fait que j'avais développé avec lui une relation assez de confiance, assez personnelle, qui m'a donné envie de m'appliquer beaucoup dans mes dossiers. Alors peut-être un peu trop, parce que pour le coup, le rapport... horaire versus rémunération n'était pas, on va dire, le meilleur.
Vous en étiez consciente à l'époque?
Oui. Ouais. Oui, mais j'étais pas la seule dans ce cas-là. En fait, tous les collaborateurs juniors étaient logés à la même enseigne. Mais pour le coup, on se soutenait pas mal. Donc, il y avait une forme d'entraide entre les collaborateurs du département de droit public. Donc, je me sentais pas du tout qu'à part ou isolée. Pour autant, si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait les choses différemment.
Bon, en tout cas, vous auriez fait comment si c'était à refaire?
J'aurais peut-être posé plus de limites à la charge de travail qu'on me donnait à l'époque, parce que beaucoup les horaires étaient parfois anormales. Mais bon, je regrette pas parce qu'en même temps, c'est ce qui a fait qu'on a appris très vite, avec une capacité de travail assez importante. La remarque que je faisais était plus par rapport à un équilibre vie perso vie pro en fait. Effectivement, c'est entre guillemets, c'est censé être les plus belles années où on est censé profiter et je pense que je les ai passées un peu trop au bureau.
Non, mais c'est des questions qui sont pas évidentes parce que à la fois il y a ce côté, c'est les belles années, il faut en profiter et tout ça. Et à la fois, comme vous dites, s'investir beaucoup et donc travailler beaucoup, c'est aussi un accélérateur potentiellement d'opportunités,
oui,
de carrière, de montée en compétences, qui fait que derrière, quand on arrive à 30, 35 ans et que, je sais pas, on veut ou développer sa clientèle pour soi ou s'inscrire dans un autre parcours de carrière en entreprise ou autre, on a accès à de très belles opportunités professionnelles en privé ou on est tellement à l'aise sur le fond qu'on peut pleinement se dédier à la montée en compétence sur les aspects entrepreneuriaux. Et donc, en fait, c'est des répartitions de l'effort qui sont différentes.
Mais oui, non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Ça dépend, effectivement. La manière dont on voit les choses, quoi.
Et je voulais vous demander, vous dites que ce qui vous a notamment plu, c'est le fait de travailler beaucoup sur les télécoms et de découvrir un écosystème avec ses différents acteurs, les ingénieurs, les financiers, etc. Quand vous vous êtes orienté vers le droit public, vous aviez une intention particulière de ce dont vous vouliez, ce que vous vouliez en
non,
faire ?
Vraiment, j'ai jamais eu déjà le... Enfin, à la fac, je me suis jamais dit, je veux absolument être avocate. Et le droit public, tel que je le prenais... En Master 2 ou à l'école d'avocat, c'était vraiment la passation des contrats, le suivi des contrats, mais les grands principes. Je me posais pas de questions. Enfin, pour moi, en tant qu'avocate, voilà, je me disais que j'allais effectivement passer des marchés publics ou des DSP. Ce que j'ai fait, hein, c'est pas du tout ça, mais je ne pensais pas du tout, effectivement, marier ce domaine de compétences avec du droit sectoriel, alors qu'il y avait des masters déjà à l'époque spécialisés hein, dans ce secteur-là. Mmh. Mais ça m'a vraiment plu, ouais, tout de suite.
Et qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ?
Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ? On a envie de prendre un peu plus d'autonomie, de faire un peu plus de commercial. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé le contact humain. J'ai toujours eu un esprit d'entrepreneuriat. C'est compliqué, ça dépend aussi de la société avec qui on travaille, hein. C'est compliqué d'arriver à se faire une place dans un cabinet avec des associés déjà établis, avec des avocats cancel, qui n'ont pas forcément pour ambition de rendre visibles les collaborateurs, ni de les fidéliser à une vie à Meternam. Et donc, du coup, j'ai un sentiment de lassitude, de frustration. Et puis je savais que c'était la première collaboration qu'il fallait que je coupe le cordon pour voir ce qui se passe ailleurs et apprendre d'autres méthodes de travail, voir d'autres secteurs, d'autres types de clientèle. Et du coup, j'ai recherché ailleurs et donc le cabinet, l'opportunité d'intégrer le cabinet CMS Francis Lefebvre s'est présentée pour un associé qui était très connu en droit d'énergie, ce que je pratiquais très peu, mais qui avait pour ambition de développer le secteur des transports et des télécoms. Donc c'est cette synergie en fait entre ces trois secteurs qui m'a attirée dans cette vision des choses. Et donc j'ai sauté le pas en fait hein, pour aller dans un gros cabinet avec une clientèle plus privée pour le coup. Je regrette pas du tout parce que paradoxalement. C'est peut-être cet associé-là, malgré les qualités et les défauts qu'il avait, qui m'a laissé le plus d'espace pour développer une activité à part entière, pour développer presque une clientèle personnelle, qui n'était pas du tout dans une optique de cacher les collaborateurs, mais au contraire, qui voyait ça comme une force d'avoir des dossiers personnels, puisqu'on est libéral avant tout, hein. Qui nous laissait une totale liberté pour gérer à la fois les dossiers du cabinet, nos activités à côté.
Comment ça se manifestait, ça, cette place qu'il vous laissait ? Enfin, de façon un peu concrète
Il nous fliquait pas. Enfin, concrètement, on avait nos dossiers. Il fallait les gérer, respecter les délais qu'il nous donnait lui, les délais clients. Une fois que le deal était, entre guillemets, était respecté, ce qu'on faisait à côté... Peu importe que ce soit pendant la journée ou le soir, etc., ça lui était égal. Donc, du coup, c'était à nous, entre guillemets, de prendre nos responsabilités. Mais j'étais pas la seule dans ce cas-là, hein. Pour le coup, ma co-bureau de l'époque, que vous connaissez, Aurore Emmanuel Rubio, était logée à la même enseigne. Et c'est très agréable. C'était même, moi, au début, j'étais très surprise de voir quelqu'un l'associé aussi brillant. Qui passait autant de temps au cabinet et paradoxalement qui permettait à ses collaborateurs de développer leur clientèle. Ce qui était l'inverse, effectivement, de là où j'étais avant.
Ouais, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je trouve, c'est à quel point est-ce que c'est finalement assez diffus la différence. C'est-à-dire que vous avez senti que vous n'étiez pas fliqué et qu'on vous laissait de la place et qu'en fait, à partir du moment où... Mais ce principe de, à partir du moment où les dossiers sont faits, en fait, le reste, vous faites ce que vous voulez, ça peut aussi se transformer en une absence totale de possibilité de développer sa clientèle, parce qu'en fait, il y a tellement de dossiers à gérer, globalement, on ne s'y retrouve pas. Alors que là, vous avez senti qu'il y avait quand même de l'oxygène et tout ça.
C'est vrai. Alors après, c'était... Moi, j'avais aussi pour mission à l'époque de développer une activité. Donc, il fallait...
Ça vous avait été demandé, oui.
Ouais. Il fallait, de toute façon, qu'il me laisse de la place pour faire du commercial. En plus des dossiers, et c'était pas lui, c'était pas quelque chose qu'il aimait faire. Clairement, lui, c'était quelqu'un C'était rare pour un associé d'ailleurs qui aimait traiter vraiment le fond des sujets, qui continuait de produire, qui était plus dans la technique que dans le commercial. Mais il n'avait pas besoin de faire ça pour son domaine d'expertise parce qu'il était très reconnu. Mais pour les autres domaines qu'il voulait élargir, il était obligé de laisser de la place à ses collaborateurs pour faire...
Comment vous vous y êtes prise justement pour faire cette démarche commerciale dans ce cadre-là chez CMS? Parce que vous êtes relativement jeune, vous avez 5 ans d'expérience.
Oui. J'avais gardé contact avec les cabinets d'ingénieurs et les cabinets financiers avec qui je travaillais chez la Tour de Rennes. Certains m'ont suivi du coup sans problème. Donc ça m'a beaucoup aidé. Enfin, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue à m'aider énormément. C'était très compliqué, en revanche, de répondre à les appels d'offres parce que le cabinet avait une politique tarifaire qui n'était pas compatible avec les appels d'offres publics. Donc, moi, j'y répondais parfois à titre personnel, ne serait-ce que pour carrer des références et m'aider derrière à développer l'activité au sein du cabinet, mais c'était pas forcément évident. Du coup, j'ai plus développé la partie privée. Donc, en prenant à tâche avec les entreprises que je côtoyais avant, mais de l'autre côté, quand j'étais AMO pour les collectivités. Il se trouve que c'était à une époque où il y a eu quelques nouveaux entrants dans le secteur des télécoms qui m'ont aussi fait confiance. Je pense qu'il y a une part de chance. Hein,
Comment vous vous y êtes prise pour contacter ces personnes?
Un peu à l'audace, quoi, enfin au culot. Il y avait une chose que j'avais retenue chez la tonnerie en regardant une associée alors qui n'était pas du tout en droit public, hein, mais qui était au même étage que moi. Je l'entendais souvent dire qu'il fallait pas avoir de complexe. Elle faisait beaucoup de choses au culot. Elle avait pas peur de se prendre des refus ou qu'on lui réponde pas. Et moi, comme vous dites, avec 5 ans d'expérience, j'avais pas le choix. Enfin, si je pensais juste à l'image que j'allais donner ou à la peur de qu'on me réponde pas, j'aurais rien fait. Du coup, oui, j'ai eu une peur du culot, en contactant directement les personnes. Alors évidemment, avec des bons contacts, ça qu'on me donnait. En revanche, les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui me donnaient des bons contacts quand même, ce qui m'aidait. Et puis,
ils vous disaient, je te recommande de contacter un tel et un tel.
Exactement.
Dans tel endroit. Éventuellement, ouais. Vous pouviez venir de leur part.
Exactement.
Et du coup, c'était pas de la prospection complètement à froid, quoi.
C'était pas. Ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, j'avoue, c'est la possibilité via SAMES, enfin, de faire adhérer SAMES à une fédération d'industriels, qui à l'époque s'appelait la FIRIP, donc l'industrie du secteur des télécoms, dans laquelle je me suis vraiment investie à la fois pour être reconnue dans mon expertise, puis être connue tout court. Donc je participe beaucoup à une commission sur la régulation et la réglementation du secteur. Et là, du coup, j'ai commencé à apprivoiser cet écosystème que je connaissais avant chez Atelier, et plus sur langue publique et là, plus sur langue privée. Et aujourd'hui, je suis toujours partie de cette fédération et je continue à m'épanouir dedans. Enfin.
Donc ça s'est bien développé chez CMS?
Alors non, en fait,
ça s'est bien développé pour votre perso, mais pas tellement chez CMS.
Ça s'est développé un peu, mais au final, j'étais quand même très très souvent brunée par la politique tarifaire, même pour les acteurs privés, qui, alors pour des raisons effectivement budgétaires, enfin, ne trouvaient que le cabinet était trop cher. Donc, ça a été compliqué. Plus les conflits d'intérêts avec les autres départements de CMS. Ça a été très compliqué quand même de développer l'activité de manière fluide et à grande échelle. Et du coup, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus réussi à la développer pour moi que pour le cabinet. Et après, entre-temps, j'ai eu un enfant. Et quand je suis revenue de congé mat, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je savais que je pourrais jamais devenir associée.
Justement, parce que ce portefeuille de clientèle ne se constitue pas d'une clientèle prête à, on va dire, à adhérer aux conditions de CMS, ouais. Notamment
en termes de tarifs. Oui, puis c'est des grosses machines avec beaucoup de concurrence interne entre associés. Il y avait déjà un associé en droit public pur, plus l'associé pour lequel je travaillais, qui faisait aussi une droit public et une droit sectorielle. Enfin, déjà, entre eux, c'était compliqué. C'était un peu un panier de crabe, quoi. Et j'avais pas envie de me rendre malade pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires que je savais improbable. Pour être associé, mais en pratiquant le métier d'une manière qui me plaisait pas spécialement non plus, quoi. Donc je suis partie.
Justement, vous dites en pratiquant le métier d'une manière qui ne me plaisait pas forcément non plus, c'était justement l'aspect le fait que dans des grands cabinets comme ça, Du coup, il y a après beaucoup de parts de, on va dire, de politique interne, de tout ça. C'était.
Oui, une politique interne. Et puis juste que McCartney soit, entre guillemets, choisi uniquement pour des considérations financières et que je puisse pas travailler sur les sujets, en fait, qui m'intéressaient. Ouais. Parce que soit pas rentable, soit parce que déjà, entre guillemets, trusté par un autre associé. Moi, je voulais vraiment continuer à cultiver l'ADN public-privé. Pas à travailler à la fois pour les collectivités et les opérateurs. Et je pouvais pas. Donc, soit je restais dans un moule avec des horaires, on va dire, moyennement satisfaisantes. Alors certes, en étant pas trop mal payé, mais avec une ambiance pas non plus hyper rigolote et un jeu de pouvoir interne que j'aimais pas du tout. Soit j'allais dans un autre cabinet, soit j'allais en entreprise, ou soit je me mettais à mon compte ce que j'ai fait, quoi.
Donc vous vous lancez.
Ouais.
Au retour de congé mat?
Au retour 6 mois après.
6 mois après.
Ouais.
Racontez-moi ce lancement.
Bah alors le lancement était bien parce que du coup les clients que j'avais ramenés chez SMS m'ont suivi. Donc je suis pas partie un peu dans le vide.
Donc parlons-en de ces clients. J'entends que c'est des acteurs du secteur transport, télécommunications. Ouais. Qui sont les acteurs du secteur transport, communication? Parlez-moi de cet écosystème.
L'écosystème du secteur des transports. Pour le coup, il est resté chez SMS parce que c'était vraiment des clients institutionnels, enfin des gros clients qui. Ça, je ne savais. Enfin, il y avait pas de. Bon, j'ai jamais suivi en tant que freelance. Donc c'est des gros accords cadres que le cabinet avait. Bon, je pense pas que je peux vous dire les noms, mais bon, avec des gestionnaires de réseau ferré. Ouais. le secteur des télécoms, c'est différent parce que ça brasse des entreprises de travaux, des opérateurs qu'on connaît tous, des opérateurs alternatifs qu'on connaît pas du tout. Enfin, il y a 200 opérateurs télécoms en France, toutes catégories confondues. Donc du coup. Alors, entre guillemets, j'avais beaucoup plus de capacité à me développer. Et donc, je travaillais à la fois pour des grosses ETI et des petites PME.
Donc, secteur BTP.
BTP, mais dans le.
Dans la construction de réseau.
Construction de réseau, exactement.
OK.
Et opérateur de gros, on va dire. On appelle ça comme ça.
Ouais. Les télécoms, on est d'accord que c'est principalement tout ce qui va permettre derrière. On va dire le fait d'utiliser des portables et Internet, quoi.
Alors non, moi la majorité de mon activité s'est développée autour de la construction des réseaux en fibre optique et autour de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit. Donc par des opérateurs, alors qu'on peut connaître comme Orange, mais surtout par des opérateurs qui sont pas ceux qui mettent la box chez nous, qui sont des opérateurs de gros, alors hormis Orange SFR, comme Axion, Attitude ou TDF. Et donc ce plan-là, ça a quand même nourri, je pense, l'activité d'un certain nombre de conseillers pendant plus de 10 ans. Enfin, ça continue à la nourrir, mais sous un autre angle aujourd'hui. Ça a donné lieu à la passation d'énormément de contrats publics, plus les réseaux DSL qui existaient avant et qui commençaient plus ou moins petit à petit à être très concurrencés. Enfin, il y a eu plein de sujets de part et d'autre qui sont sortis. Donc moi, c'était pas tellement les opérateurs connus du grand public en fait que j'accompagnais, c'était plus ceux qui construisent et qui exploitent les réseaux. Voilà.
Ok. Et voilà. Et donc, vous vous installez. Ouais, racontez-moi les débuts du cabinet, déjà. Où est-ce que vous vous installez? Comment vous faites vos choix?
J'avais pas de locaux. Parce que comme ne sachant pas si ça allait marcher et en combien de temps, du coup, je travaillais chez moi.
Donc, malgré le fait que vous soyez parti avec quand même une clientèle assez. Enfin, moi, j'entends une clientèle assez constituée, quoi.
Non, c'est vrai.
Vous aviez quand même pas mal d'inquiétudes sur le.
Bah, on n'a jamais vraiment de prévision à plus de 3 mois, en fait. Hein. Même là aujourd'hui, hein. Enfin, c'est compliqué de savoir dans 3 mois la charge de travail que j'aurai. Donc, et en plus, on a toujours une appréhension parce que, certes, les clients nous suivent au début, mais on ne sait pas s'ils vont rester. Il faut pas se contenter de ça. Il faut toujours, entre guillemets, développer constamment sa clientèle pour justement, entre guillemets, solidifier un peu plus sa façon d'exercer, donc avoir des bureaux, pouvoir recruter, etc. Enfin, la clientèle qui m'a suivi me permettait de, entre guillemets, de vivre normalement, mais me permettait pas de louer des bureaux, de recruter un collaborateur, etc. Donc du coup, j'ai travaillé chez moi au début et après, il y a eu le Covid. Donc du coup, ça a un peu freiné le développement. puisque... Bon.
C'était comment le Covid pour le secteur télécom ?
Alors, ça, c'était pas l'arrêt, mais en revanche, ce qui était ralenti, c'était les projets publics, tout court, la prise de position des collectivités, enfin, le cadencement des projets. Et même en travaillant pour le privé, enfin, on est très tributaire, en fait, du rythme des collectivités. Et je pensais qu'il y aurait pas mal de contentieux, en fait, mais en fait, non, parce que beaucoup de choses se sont réglées, en fait, à l'amiable. Il y a eu beaucoup de discussions entre les acteurs privés et les collectivités, donc, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que, du coup, ça ralentit les choses. Ça les a pas bloquées, mais ça les a quand même pas mal ralenties. Et puis, bah, du coup, plus la possibilité de voir les gens, de participer à des événements, fait que c'était pas très propice à se développer. Voilà. Après, voilà, j'ai continué quand même, du coup, plus lentement que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu le Covid, à me développer. J'ai fini par prendre des locaux, recruter un stagiaire, mais tout en étant quand même entre deux eaux, enfin, sans avoir la certitude que ça durerait.
Vous l'avez fait à quel moment, ça ? À quel moment vous vous êtes senti assez solide sur vos pattes pour vous dire, OK, j'investis dans des locaux,
Fin du premier confinement, enfin, le mois de septembre, mois de septembre 2020, du coup. Alors, non pas que j'étais persuadée d'être assez solide, mais je savais que je pouvais pas rester comme ça. Enfin, qu'il fallait que je prenne les choses en main. Ouais, exactement. Donc, j'ai pris des bureaux dans un coworking, un morning aussi, mais pas celui-là. Et j'ai recruté un stagiaire à partir de janvier 2021.
Vous avez eu des difficultés à trouver un stagiaire?
Non, pour le coup. Alors, j'avais passé une annonce pendant le confinement. Mais non, le stagiaire, je l'avais recruté en juin, au mois de juin d'avant, au mois de juin 2020. Donc non, pour le coup, ça a été. Je pense que c'était pas... C'était un peu bizarre parce que du coup, l'immeuble où je louais mes bureaux était quasi vide. Parce qu'avec le Covid, du coup, tout le monde n'avait pas repris une activité à plein temps. Ils avaient eu du mal à louer tous leurs bureaux. Donc je pense que pour lui, c'était pas forcément l'idéal en termes de vie, le cabinet. Mais bon, je pouvais pas forcément non plus l'emmener... Il y avait encore très visio, il n'y avait pas encore beaucoup de réunions physiques. Donc c'est vrai que je pouvais pas non plus l'emmener dans beaucoup de réunions clients ou de déplacements. Mais ça m'a quand même permis d'avoir un minimum de bande passante pour, en revanche, reprendre le commercial et une dynamique post-Covid. Puis après, il y a eu une loi, quoi.
Mais racontez-moi justement, vous dites après, il y a eu une loi.
Et ben, en fait, je connaissais un des associés fondateurs, donc Thomas Livenet, qui était chez CMS, et avec qui on a eu... on avait un client commun et on a répondu à des appels d'offres, tous les deux. Alors oui, ils avaient créé Inno en 2018, hein, pour le coup, ils étaient plus établis. Et puis, un jour en échangeant, moi, je leur disais que moi, j'étais... je regardais, bon, sans trop... comme ça, enfin, sans trop me prendre la tête, soit m'associer avec d'autres personnes, ou soit intégrer un cabinet qui n'est pas dans le public. Et eux étaient, pareil, dans une dynamique d'élargir leur scope d'activité. Ils avaient recruté une association en droit social. Et donc, du coup, ça s'est fait naturellement. On connaissait une chasseuse de tête en commun qui nous a, en fait, orientés l'un vers l'autre. Et ça s'est, du coup, l'association s'est fait très vite, c'est-à-dire en avril 2021, on s'était mis d'accord. Et du coup, je suis arrivée avec mon stagiaire donc, de l'époque, avec eux, au mois de mai.
Quand vous vous êtes installée, vous vous êtes installée avec cette idée de « bon, je m'installe, mais l'idée, c'est quand même de trouver à un moment quelque chose de plus collectif, que ce soit en trouvant des personnes avec qui m'associer ou que ce soit en rejoignant une structure déjà construite. » Est-ce que c'est quelque chose qui est plus... Ou est-ce que vous vous êtes lancée en mode « bon, YOLO, j'y vais et on verra. » Et une fois que vous vous êtes installée, vous avez ressenti ce besoin de collectif et vous vous êtes mise dans cette dynamique d'ouverture aux opportunités, ouais, de rejoindre un collectif. Comment c'était?
Franchement, quand je me suis mise à mon compte, c'était plus allez, j'y vais, puis on verra, quoi. J'étais pas du tout. J'étais un peu au jour le jour, quoi. Donc, je me projetais pas. J'avais pas de schéma en tête. J'étais un peu échaudée par le côté grosse structure. Au fond de moi, je savais que je pourrais pas rester seule non plus toute la vie, mais je voulais vraiment d'abord me concentrer sur mon développement. Et après, non, j'étais plus attirée par créer moi-même mon cabinet avec d'autres associés. Mais la difficulté étant de trouver les personnes de confiance dans notre domaine, qui ont la même vision que vous, la même manière de développer, de penser, etc. Et clairement, à l'époque, je connaissais personne. Et c'est, enfin, j'ai pas fait une démarche plus active que ça, hein, concrètement. Et là, en fait, ça s'est fait naturellement parce que on avait le même âge. Je savais que c'était des gens sains, avec une structure encore neuve où il y avait plein de choses à créer. Donc ça, c'était pas opposé à ce que je voulais faire. Ils n'avaient pas de besoin en public, ce qui était par contre, en revanche, pas forcément le top pour du coup tout de suite avoir un afflux de clientèle dès l'association.
Mais d'un autre côté, c'est pas ce dont vous aviez besoin à court terme.
Alors à court terme, non. Après, on ressent quand même assez vite le besoin de mettre en place des synergies parce que on est associé, donc on partage des frais de structure, on recrute, donc on a plus de charges. Et donc pour justement, entre guillemets, éponger ce surplus de charges qu'on n'a pas quand on est seul, on a besoin du coup d'avoir plus de dossiers, de pouvoir mieux facturer, d'avoir une espèce de un flux d'affaires un peu plus important. Ce qui, en fait, c'est le seul truc entre guillemets, hein, même si je dis ça, sans, c'est pas du tout péjoratif. C'est ce qui pêche aujourd'hui en fait dans notre association, c'est que il y a une très bonne ambiance, on s'entend tous bien, mais là, le côté synergie entre les départements marche pas dans tous les domaines et notamment, en particulier.
Ouais. Non, mais c'est des choses intéressantes à aborder parce que dans une réflexion de. Ou de rejoindre un collectif, ou de soi-même constituer un collectif. Ce que vous dites, ça invite aussi à se dire bon, le collectif en tant que tel ne suffit pas, quoi. Il suffit pas de dire qu'on est dans un cabinet structuré, que c'est sympa de travailler avec d'autres gens. Enfin, c'est vrai, au quotidien, d'être dans des bureaux avec d'autres gens, etc. Mais pour des raisons aussi assez structurelles et financières, ces synergies. Mm. Parce que, comme vous dites, il y a un surcoût à la structure. Ces synergies, elles viennent aussi garantir un lien qui vient compenser ça, quoi.
Ouais.
Et ce que j'entends aussi, c'est que bon, comme Inlo avait été créé en 2018, c'était voilà, certes il y avait une marque, les choses avaient déjà été constituées, mais vous aviez quand même cette sensation que vous alliez pouvoir venir et imprimer un peu votre patte,
créer,
quoi.
L'histoire. Ouais,
créer aussi un peu l'histoire avec la structure, que c'était pas juste. Bon, j'adhère à un truc, mais en fait, j'aurais pas vraiment ma voix parce que c'est déjà assez figé. Et...
Oui, alors c'est vrai que pour ça, j'ai eu la chance aussi que les associés qui étaient là à l'époque soient des gens qui soient, je veux dire, normaux. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cabinets d'avocats où les associés fondateurs veulent avoir le lead et le dernier mot surtout. Non, c'est vraiment des gens sains qui, au contraire, veillent beaucoup. Est-ce qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de. Trop de disparités entre associés. Alors évidemment, il y en a toujours, d'un point de vue, dans le capital ou dans le nombre d'actions, etc. Mais ça se ressent pas. Concrètement, au quotidien, on n'a pas l'impression qu'il y a des fondateurs et le reste. Non, ils ont toujours fait preuve d'une grande vigilance à maintenir une équité entre les associés. Ce qui n'est pas de traitement différent selon qu'il y en a un qui fasse moins de chiffre d'affaires que l'autre. On a tous on rapporte tous quelque chose de différent à la structure, alors qui se matérialise soit par l'argent, soit par autre chose. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients, en fait. Voilà. Donc, et c'est vrai que le fait d'être dans une structure saine, alors, même si du coup, c'est une jeune structure, qu'il y a plein de choses encore à construire, que c'est des fois peut-être encore un peu artisanal et qu'elle n'a pas encore forcément un discours commun assez établi. Et ça, pour le coup, et je pense qu'il n'y a rien de remplace, entre guillemets, le plaisir de travailler seulement sans pression, sans avoir la boule au ventre de venir le matin en me disant si je ne fais pas tant d'euros ce mois-ci, on va me pointer du doigt en réunion associée. Enfin voilà, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas forcément facile à trouver dans beaucoup de cabinets.
Oui. Vous avez mentionné que votre développement, quand vous aviez commencé ce développement chez CMS, que ce développement s'était beaucoup fait par introduction, on va dire, d'une part, et puis d'autre part que vous alliez pas mal à des événements dans l'écosystème télécom et que donc il y avait entre guillemets ces deux canaux d'acquisition, quoi, pas mal de prospection tiède, on va dire, et de développement dans tout ce qui est événementiel, enfin à travers les événements qui sont organisés par l'écosystème. Est-ce que c'est encore la manière dont vous développez aujourd'hui principalement?
Oui. Oui. Alors, je réponds quand même beaucoup à des appels d'offres.
Ouais,
toujours en partenariat avec le même cabinet, d'ailleurs, ouais. Hein, depuis 10 ans presque, avec que j'ai connu chez la Tournerie et avec qui je travaille encore. Ce qui était hyper agréable. Donc, je continue.
Ouais. Du coup, juste expliquez-moi ces appels d'offres. Parce que autant je vois les publicistes qui accompagnent les entreprises à constituer leurs appels d'offres.
Mm-hmm. Ce qui peut être une partie de mon activité.
Une partie de votre activité. Mais quand vous dites, vous répondez à des appels d'offres, donc
public.
Ouais. Et vous dites en partenariat avec un cabinet. Comment ça se présente en fait?
Alors,
c'est
en
des
fait,
appels d'offres, pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que vous y répondez en partenariat avec un autre acteur?
Alors, en fait, c'est beaucoup d'appels d'offres d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner une collectivité à mettre en place un projet. Donc soit d'aménagement numérique, soit d'éclairage public, soit de bande de recharge. Et c'est pluridisciplinaire. C'est qu'à chaque fois, on demande une expertise juridique, financière, technique, économique. Alors, parfois, c'est l'outil, mais c'est rare. Et dans ce cadre-là, on est obligé, du coup, de répondre en groupement. Alors, le juridique est rarement mandataire, parce que c'est pas la matière, on va dire, prédominante dans ce type de dossier. Mais du coup, par secteur, on a des partenaires privilégiés. Donc, dans le numérique, j'ai les mêmes partenaires depuis 10 ans. J'ai développé d'autres partenariats dans l'éclairage, d'autres partenariats dans les transports, d'autres partenariats sur l'IRVE, et qu'on essaye quand même de fidéliser parce que c'est quand même plus agréable dans le fonctionnement quotidien de travailler avec les mêmes personnes. Et du coup, c'est ça, c'est qu'on, entre guillemets, tous les matins, on a notre veille hein, de tous les appels neufs qui sortent, et puis quand il y en a un qui nous intéresse, on s'appelle...
C'est intéressant parce que vous pourriez, enfin, je veux dire, si la profession était déontologiquement organisée autrement, vous pourriez presque avoir pour associé personnes-là, quoi.
C'est vrai que ça pourrait être très sympa d'ailleurs, de se regrouper dans la même structure. Ouais. Après, quelque part, c'est pas plus mal aussi d'avoir son indépendance et d'entre guillemets, de pas avoir non plus une exclusivité totale avec un partenaire, puisqu'il y a toujours des exceptions, en fait. Mais c'est vrai que oui, c'est... J'échange plus au quotidien avec mes partenaires qu'avec mes associés, enfin, clairement, donc... Oui.
Vous avez recruté, entre guillemets, un autre profil qu'un stagiaire? Vous avez recruté un collaborateur ou pas encore?
Oui, j'ai recruté peu de temps après. Mon stagiaire est parti donc en juillet 2021. Et en septembre, du coup, j'ai recruté mon premier collaborateur.
Vous avez vraiment senti l'effet de levier que vous avez permis d'avoir le stagiaire?
Alors, le stagiaire, pas tant que ça, mais c'est plus le fait d'intégrer une structure...
Qui vous a donné confiance.
Qui m'a créé un petit effet de levier. Au début, pas énorme, mais suffisamment en tout cas pour recruter un collaborateur. Et puis après, ça, la dynamique, elle continue avec toujours cette incertitude de quel dossier on va avoir dans 3 mois. Enfin, mais ça, je pense que je suis encore entre deux eaux pour... avoir suffisamment de visibilité pour me dire, bon, bah, c'est cool, je peux lever le pied, faire moins de commercial, les dossiers ils vont entrer tout seul. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin de faire d'événements, et quand je le fais, c'est plus pour mon plaisir et pour voir les gens que par nécessité commerciale presque. Mais donc, j'ai recruté un premier collaborateur qui n'est plus là, et j'ai recruté au mois de mars un collaborateur middle pour le coup, qui est toujours avec moi, qui a 3 ans d'expérience et qui m'aide beaucoup. Enfin, s'il n'était pas là, je pense que je serais déjà... Oui, non, j'aurais déjà fait un burn-out, mais non, c'est vital, hein, pour le coup.
Donc, vous vous êtes fait confiance sur le recrutement d'un middle? Parce que souvent, les profils, entre guillemets, comme le vôtre, c'est-à-dire plutôt en début de phase de croissance, etc., ils ont cette peur de pouvoir absorber la rétrocession d'honoraires d'un middle. Et donc, il y a ce réflexe de se dire, bon, je vais plutôt recruter un junior parce que ça me rassure sur les aspects financiers, avec le risque que, en fait, derrière, il soit un peu plombé par la charge de formation que ça représente un junior, et que, en fait, l'oxygène dont ils ont besoin à ce moment-là, bah en fait ils le trouvent pas et donc voilà, mais d'un autre côté bah ils avaient besoin d'être assurés sur le financier, donc il y a cette espèce de phase un peu bâtarde où donc voilà, vous comment
ah non, mais vous avez tout à fait raison hein. Bah c'est ce qui s'est exactement passé avec mon premier collaborateur qui sortait de l'école d'avocat. C'est que j'étais contente d'avoir de l'aide, mais l'aide que je gagnais au début, je l'ai perdue potentiellement à la fin, parce que du coup, bah, effectivement, ce qui est normal, hein, c'était pas du tout, il fallait contrôler ce qu'il faisait, corriger, donc il y avait effectivement nécessairement plus d'aller-retour, pour rendre livrable que quelqu'un qui est déjà opérationnel. Donc, effectivement, ça me déchargeait, entre guillemets, qu'à moitié, avec le côté de, on n'est pas serein, parce que, entre le télétravail, le fait qu'on sait pas forcément si le collaborateur a saisi tous les enjeux ou si on a été assez pédagogue, de savoir donc si les choses vont être bien faites en temps, en heure, de pas tomber non plus dans les travers de fliquer, donc c'était pas évident, et la charge de notion augmentant, je savais qu'il fallait que je recrute un collaborateur sur qui je puisse vraiment m'en poser. J'aurais espéré que avoir une entre guillemets une, à un moment donné que le développement de mon activité me permettrait de garder les deux, à savoir le junior et le middle. Le fait est que les coûts de structure ayant augmenté et les budgets des dossiers étant pas forcément tirés vers le haut, j'ai dû me séparer donc de mon collaborateur junior, ce qui n'a pas été une expérience humaine très sympathique.
Ouais, j'imagine.
Mais je savais qu'il fallait que je garde celui sur lequel je pouvais plus m'appuyer, quoi. Enfin,
vous avez pu en parler, ça, avec la personne?
Oui, oui.
Enfin, voilà, assez ouvertement, de structurellement, la difficulté à laquelle vous vous confrontiez?
Oui, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien humainement. Il savait globalement les avantages, mais aussi les travers de l'association. Il a été hyper compréhensif. Voilà, bon là aujourd'hui, il a retrouvé une autre collaboration à Bordeaux, il a complètement changé de vie. Mais oui, pour le coup, je me voyais pas, j'allais pas lui inventer des défauts, lui faire trop de reproches. Enfin, à un moment donné, il fallait aussi que j'assume entre guillemets ma part de responsabilité sur le fait que je pouvais pas garder de collaborateurs au risque, pour le coup, de venir avec la boule au ventre en me demandant si
ça allait passer ce mois-ci, quoi. Mm-hmm.
Donc voilà, après l'effet pervers, c'est que pour le coup, là, il est à peine parti que j'ai...
Que ça se développe à toute vitesse.
Que du coup, ouais, exactement. Donc là, je paye du coup le fait de m'en être séparée.
Ouais.
Donc là, maintenant, je suis en train de repenser à recruter. Alors peut-être un stagiaire, du coup, pour essayer de... Il y a des crescendo, mais c'est vrai qu'on sait jamais. Enfin, en deux mois.
C'est du poker. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça. Donc.
Ça avait été compliqué de recruter un middle à votre. On va dire, par rapport à votre stade de développement, etc.
Ben, par rapport au fait de pouvoir le...
Ben,
le...
C'est bête, mais. Ouais, de. En termes d'attraction, quoi. D'arriver à recevoir de l'intérêt de ce genre de profil.
Oui, alors ça, vous avez raison. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup de jeunes avocats qui sont effectivement attirés par le côté. Le nom, une structure, enfin l'effet paillette, plus les rémunérations qui, des fois, peuvent être. Qui peuvent être énormes, hein, selon les cabinets. Et c'est vrai que j'ai pas forcément énormément, au-delà de ça, hein, j'ai pas non plus énormément de CV avec des profils intéressants. Mais en tout cas, ceux qui ont vraiment fait une démarche de passer les entretiens, globalement, hein, c'était des avocats qui cherchaient pas justement à
c'était
aller.
C'était un choix, un
ouais,
choix de
c'était
carrière.
C'était un choix, ouais, qui cherchaient pas à aller dans les structures, qui voulaient pas finir à 22h tous les soirs, même pour gagner beaucoup. Qui était justement attiré par le côté jeune structure, jeune...
assez entrepreneurial.
Oui, c'est... Ouais. Donc j'ai pas... À partir du moment où, je veux dire, les profils étaient bons, j'avais pas forcément à convaincre... Enfin, j'ai pas eu le sentiment d'avoir beaucoup à convaincre...
Bon, le modèle était posé et, voilà. Et les gens sont venus pour ça.
J'étais très franche pour le coup, mais je... Non, j'ai pas eu trop... Les gens savaient pourquoi ils postulaient globalement.
Ouais. 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 Vous avez mentionné le fait que vous êtes dans un morning. Je vous ai posé la question en off, mais ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs. Ce genre de coworking qui sont ouverts à d'autres professions que les professions d'avocat. Pendant un moment, ça a été pas forcément évident côté domiciliation, déontologie, etc. Vous, comment est-ce que ça s'est passé pour vous et voilà. Et aujourd'hui, comment ça se passe?
Comment le fait d'être dans un espace de coworking, vous l'avez senti?
Comme celui-ci, comme un boarding coworking.
Alors, pour le coup, nous, en tant qu'associés et collaborateurs, on aime beaucoup l'endroit. Enfin, c'est vrai que on s'y sent bien, il y a un côté un peu cocoon, c'est lumineux, enfin, on n'en a rien à dire. C'est qu'on se demande toujours comment les clients peuvent percevoir ça, parce qu'on est dans le 8e avec les autres cabinets qui sont établis. Mais effectivement, dans un coworking, en fait, on n'a pas. C'est pas le cabinet Inno. Voilà. Mais, alors moi, pour le coup, je n'ai pas du tout de gêne ou autre à inviter des partenaires ou des clients ici. Hein. Et à chaque fois, les gens sont très agréablement surpris. Enfin, ils trouvent ça assez chouette, en fait, ce côté structure. Alors déjà, peut-être que inconsciemment, ça les rassure sur le fait que oui, on ne fait pas, on met pas dans nos notes d'honoraires les coûts d'un appartement haussmannien, voilà. Mais il y a ce côté un peu, innovant. Lumineux, vous savez, quand ils viennent, ils adorent.
Bah, la déco est super jolie. C'est à la fois chic et moderne.
Ça fait pas.
C'est chic sans être. C'est pas le marbre et le. Oui. Et même ce que vous dites, l'haussmannien très classique parisien, mais c'est. Enfin, c'est. Ouais, c'est quand même hyper joli, quoi.
Oui, c'est ça. C'est qu'ils savent, ils viennent voir leurs clients et une fois qu'ils sont là, ils ont aussi l'impression de passer un bon moment. Enfin, c'est les contractés, quoi. Voilà. C'est pas. Il n'y a pas que l'aspect, effectivement, dossier. Et c'est vrai que oui, moi, je le sens assez comme ça. C'est pareil. On avait hésité, hein, pour le coup, à aller prendre des vrais locaux. C'est juste qu'on n'a pas trouvé.
Et donc, votre configuration, c'est que vous avez un bureau qui est dédié ou des bureaux qui sont dédiés. Comment ça se passe?
En fait, au deuxième étage, on a deux bureaux fermés, ben, juste pour nous. Pour le coup, donc personne ne peut y rentrer à part nous. On ne peut pas nous voir non plus. Hein. Donc, on est deux grands bureaux de 6 postes chacun. Bon, avec le télétravail, on n'est jamais tous là en même temps. Et puis après, donc, on a les salles de réunion ici, au rez-de-chaussée et au moins un.
Ouais.
De toutes les tailles qu'on vous réserve avec
en fonction des besoins. Ouais.
Voilà, c'est très simple. Plus les espaces communs, comme là, il y en a à tous les étages. C'est vrai que bon, moi qui passe mon temps en visio au téléphone, je suis très rarement dans les bureaux fermés. Et je passe mon temps en fait dans les petites salles, donc soit dans des phone box. Enfin, voilà, quoi, c'est assez sympa.
Ouais. Et avec l'ordre, ça n'avait pas été compliqué?
L'ordre dans notre. Dans le morning où on était avant, on n'avait pas trop cherché à voir avec l'ordre. Hein. On avait l'adresse de C'est Social qui était dans le 8e aussi, mais à l'autre endroit. Et comme on a ouvert un deuxième bureau à Marseille...
Ça commence à faire beaucoup de frais.
Surtout qu'à Marseille, on a cherché quand même effectivement à voir avec l'ordre. Hein. Si le bureau de Condor pouvait vraiment être domicilié auprès de l'ordre à Marseille. Donc là, il y a eu plusieurs allers-retours. Enfin, ça a mis un peu de temps, mais in fine, l'ordre a quand même fini par dire « Ok, c'est bon ». Et donc, du coup, on s'est dit « Mais si l'ordre a dit oui à Marseille, on va faire la même démarche ici ». Et effectivement, bon.
C'est passé.
Bon, en tout cas, oui, là, du coup, on fait notre transfert de siège ici, quoi. Voilà.
À bon entendeur. Moi, je trouve ça... Enfin, personnellement, je trouve que c'est chouette que ça s'ouvre de ce point de vue-là.
C'est vrai que c'est un coup, quand même, mine de rien. Je dis même pour les petites structures qui se créent ou même des avocats qui se mettent à leur compte. C'est vrai que ça, louer des bureaux, c'est pas neutre. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est une charge assez importante. Donc, c'est bien. Alors, quoique, ici, je pense pas que ce soit le morning le moins cher, mais il y en a un peu partout. Et c'est bien. Mais on n'est pas les seuls. Enfin, dans l'ancien morning où on était deux ou trois cabinets d'avocats aussi. Ben, j'ai l'impression que ça se développe quand même de plus en plus, quoi.
Comment vous voyez la suite? De quoi vous avez envie?
C'est une bonne question. La suite, c'est la mise en place de synergie. Enfin, ce que j'évoquais au début, enfin, ça reste quand même quelque chose d'important. Enfin, ne serait-ce que pour que toute mon activité ne repose pas non plus à 100% sur moi et que je puisse avoir des fois cet appel d'air qui vient de mes associés. Recruter davantage pour me concentrer sur les dossiers stratégiques où j'ai une vraie plus-value.
Donc là, vous dites plutôt un stagiaire en fin d'études ou un junior?
Oui, junior. Alors par précaution, je pense que je vais commencer par le stagiaire, ne serait-ce que pour pas trop me mettre de pression. Mais idéalement, oui, l'objectif, c'est d'arriver à avoir un volume de dossiers et chiffre d'affaires suffisant pour effectivement avoir au moins deux personnes avec moi. Et pour me permettre de continuer à développer mon activité comme je veux, enfin prendre le temps de la développer comme je veux, quoi.
Et comment vous voulez la développer, justement?
Aujourd'hui, j'ai plus besoin de développer le secteur des télécoms ou du numérique, parce que pour le coup, je suis suffisamment connue et j'ai des dossiers qui viennent tout seuls. Donc, je continue à m'investir dans la fédération d'industriels dont je parlais tout à l'heure, avec grand plaisir à participer à les événements, mais quelque part, encore une fois, c'est plus pour moi ou alors pour voir les clients.
Oui, vous cultivez un réseau que vous avez constitué. Exactement.
L'objectif pour moi, c'est d'arriver à ce que j'ai voulu faire en mettant à mon compte. Quand je me suis mise à mon compte, je voulais pas afficher une expertise trop publique générale, parce que c'est trop concurrentiel. C'était pas tellement ce que je voulais faire. C'était afficher une expertise dans les secteurs régulés. Ce que je faisais chez CMS et que j'aimais bien, c'est-à-dire télécom, transport, énergie, qui ont des synergies entre les trois. Sauf que c'est pas évident de développer les mêmes secteurs au même rythme.
C'est trois cibles différentes, voilà.
Donc les télécoms, c'est fait. Et là, maintenant, j'essaie de me concentrer un peu plus du coup sur les autres. Donc sur le secteur aéroportuaire, sur l'éclairage, sur le déploiement de bornes de recharge. Ça commence à venir, mais si je veux vraiment que ce soit bien établi, il faut que je prenne le temps de faire la même chose que j'ai faite en télécom, il faut que je la refasse dans les autres secteurs. Et ça prend du temps.
Ouais, c'est... C'est ce que je n'arrête pas de dire aux clients qui veulent se positionner sur tout de suite. Je leur dis, mais en fait, c'est vraiment la pire chose à faire, parce que vous n'aurez de toute façon pas le temps de développer chaque positionnement de manière qualitative.
Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Il faut prendre le temps, effectivement, de... d'acquérir effectivement le niveau d'expertise suffisant pour approcher toute cible, pour faire les bons partenariats, cibler les bons événements, le bon réseau, quoi. Et je me plains pas vraiment, parce que pour le coup ça commence à venir, et en fait il y a des passerelles qui se font assez naturellement, mais c'est toujours pareil, si on veut avoir un effet de volume, il faut que j'ai plus de temps, et pour ça, il faut que je produise moins de choses, en tout cas moins de choses qu'un associé ne devrait pas forcément
produire.
Ouais, c'est ça.
J'ai quand même l'impression que vous y prenez du plaisir à cette dimension de développement et développement commercial de votre activité.
Ouais. Mais oui, non, vraiment, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment le contact avec les gens, le fait d'apprendre un milieu, de. Non, c'est le côté entrepreneurial me plaît beaucoup. Mmh. Ouais, vraiment.
Quel est votre principe déontologique préféré?
Oula. Je ne sais rien du tout.
Vous n'êtes pas quelqu'un qui met trop d'importance au statut avocat, pas avocat?
Pas du tout. Je me sens pas. Non, mais pour des choses, clairement, j'ai jamais voté aux élections. Alors, non, je me sens pas. Des fois, je suis même presque mal à l'aise avec ce statut qui n'a pas forcément une bonne image. On a plus une image, surtout à Paris, l'avocat parisien qui pense qu'à l'argent, on va dire. Donc, je suis pas forcément à l'aise avec ce statut. Je préfère plus qu'on me considère comme effectivement un conseil qui est là pour accompagner une structure ou un projet, plus que comme l'avocat avec cette dimension froide et impersonnelle. Non, j'ai jamais été très à l'aise avec le statut d'avocat, non.
Quelle est votre dernière joie?
Ma dernière joie?
Oui, votre dernière joie.
Professionnelle ou
celle que vous voulez, ça peut être une joie personnelle. La dernière.
La dernière, ça amenait mon fils à l'école ce matin.
c'est votre dernière joie. Voilà. C'est bien. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Sous ma robe.
Je m'attendais à ce que vous me fassiez ce regard. Vous savez que les avocats ont une robe. Et du coup, vous pouvez y répondre au sens propre, au sens figuré, au sens que vous voulez.
Non, mais la robe, le vêtement.
La robe, il y en a qui prennent le truc de façon assez métaphorique, donc je veux vous laisser complètement libre de répondre en fonction de votre compréhension de cette question.
Des sous-vêtements.
Nous voilà rassurés. Merci beaucoup pour cet échange.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !